Nicolas Soulier est architecte et urbaniste. C'est pourtant aux éditions Ulmer, maison d'édition spécialisée dans le domaine des jardins, de la nature et de l'écologie pratique, qu'il publie « Reconquérir les rues ». De fait, pour Nicolas Soulier, la rue est niée, n'étant bien souvent qu'un espace de circulation. Or, l'effet domino rend cet espace fragile. Si l'on n'y prête pas attention, c'est le tissu social de la ville qui se délite. A l'inverse, et les exemples sont multiples, dès lors qu'il est l'objet d'attention, la ville redevient urbaine. Une démarche que Nicolas Soulier compte prolonger sous forme d'un blog participatif avec les habitants de bien des villes à travers le monde. Une interview réalisée par Pascal Marcaggi. Nicolas Soulier, en fait, vous venez de publier un livre, Reconquérir les rues. Vous êtes un architecte. Je suis étonnée, je ne pensais pas que c'était le travail d'un architecte de se pencher à ce point sur les rues. Qu'est-ce qui vous a poussé à ce travail ?
Je comprends votre interrogation, parce que souvent on se dit l'architecte construit le bâtiment. Et ce qui est hors du bâtiment n'est pas l'habitat, n'est pas l'habitation. Moi, dans mon expérience d'architecte, j'ai été amené à constater que la rue était essentielle comme part de l'habitat. C'est-à-dire que la nature de la rue, la qualité de cette rue, comment elle est fabriquée, comment elle est construite, comment s'articulent au bord de la rue les habitations riveraines, c'est une part essentielle de l'architecture. Mais l'architecture au sens pas la chose privée des architectes, le fait qu'on construise, nous les humains, notre habitat. Je dirais que l'intérieur de l'habitation, pour moi, me semble être une partie moins importante que la nature de ces deux grands espaces entre lesquels on habite. D'un côté, souvent, on donne sur une rue, un espace public, un espace partagé, celui par lequel on rentre et on sort de chez soi, celui par lequel on voit les autres vivre de l'autre côté de la rue ou passer dans la rue. Et puis, il y a un autre espace, généralement, plus intime, avec des jardins ou des cours. Pourquoi les mettre consacrés à ce thème des rues ? Parce que je pense qu'elles sont chez nous en mauvais état et qu'elle contrarie le fait pour chacun d'entre nous d'habiter de manière intéressante. Et pour moi, en tant qu'architecte, souvent je me dis c'est même pas la peine de faire une habitation là, la rue, elle n'est pas là. Les conditions, plutôt, pour qu'elle soit bien et habitable, ne sont pas réunies. Alors, ce constat, je l'ai fait au cours des années, parce que je suis un architecte, mais j'ai aussi fait du travail d'urbaniste. Mon constat a toujours été, mais il faut faire des rues. Il ne faut pas que tout se rassemble avec nos habitations les unes à côté des autres. On habite en donnant sur des routes, séparées entre nous par des clôtures, et en ne partageant rien.
Alors, essentiellement, en Europe, par exemple, nous avons des rues commerçantes qui sont très habitées à ce moment-là par les rez-de-chaussée lumineux, on va dire, parfois un petit peu trop. Sinon, il y a parfois des rues qui sont de véritables... On y a d'un côté chez soi, de l'autre côté le point où l'on va, et entre les deux, le no man's land. En
fait. C'est la situation préoccupante et nouvelle, parce que ça n'a pas été comme ça jusqu'à récemment. Dans ce livre, je m'intéresse aux rues résidentielles banales, les rues où habitent les gens d'habitude, que ce soit celles de ville ou de village. Ce n'est pas la ville le sujet. C'est, si on est plusieurs à habiter côte à côte, quel espace forme-t-on en commun? Quel espace public forme-t-on en commun? Par où est-ce que je rentre chez moi? Où est-ce que je sors quand je referme la porte de mon entrée? Beaucoup de décisions sont en jeu, collectives. Effectivement, ce livre se consacre plus à ce qui est vraiment du domaine spatial. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas la rue, au sens d'un espace particulièrement beau, c'est les rues vivantes.
Est-ce que c'est une question qui est valable, justement, aussi bien pour Paris que pour un village du sud de la France?
Oui, je pense. Paris, bon, là, les rues sont faites depuis le Belle Lurette. Il y en a qui sont tristes de manière indue. Toute la périphérie de Paris, qui est Paris aussi. Il devrait y avoir des rues absolument extrêmement délicates et agréables à vivre en banlieue, qui ne le sont pas pour l'instant. Dans les petites villes de province ou dans les villages, c'est pareil. Vraiment, je ne vois pas en quoi le sujet de la rue serait lié à la grosse ville, si vous voulez, ou à la ville historique. J'ai montré en quoi des processus que moi j'ai appelés de stérilisation peu à peu se mettent en place. La France est connue pour son mode de vie plutôt sympa, avec des belles villes, avec des belles rues, avec une culture du café, du trottoir. Pourquoi est-ce qu'on est tout d'un coup en train de fabriquer quelque chose qui ressemble plus du tout à ça? D'abord, c'est des règlements qui nous empêchent de faire plein de choses privées, comme on dit, sur la rue. Ensuite, on peut regarder comment on circule dans la rue. C'est vrai que tout le monde peut le constater, en France, on a donné presque toute la part de la circulation à la voiture.
Dans votre livre, vous citez un exemple pour nous qui est proche, c'est l'Allemagne, qu'on sait très organisée, ce qui n'empêche pas de rendre la vie agréable et fleurie. Et puis aussi Montréal, en extérieur, là ça surprend peut-être un peu plus parce que c'est frais l'hiver quand même.
Oui, oui, ben, les exemples, on peut les trouver vraiment tout près de chez nous, là, en Allemagne, effectivement, où avant c'était assez assimilé à un pays moins agréable que le nôtre. Donc la roue tourne, et c'est intéressant de voir la roue tourner. J'admire la capacité qu'ils ont eue à refonder des espaces et des modes de vie communs de manière très souple, où il privilégie la vie spontanée des gens et non pas l'organisation militaire, hein, c'est le contraire. Nous, notre organisation des rues est militaire. Montréal, le quartier du Plateau ou les villes de Montréal, c'est vraiment un endroit où je connais personne qui ne m'ait pas dit. Là, j'ai vécu un moment merveilleux quand j'ai séjourné là, ou si vous passez juste une journée, vous vous dites, tiens, j'aimerais bien habiter là. Pourquoi ? Ben, c'est assez simple, en fait. La question de la rue, c'est pas qu'une question de circulation et de partage de la rue entre ceux qui y circulent, ce qu'on appelle le partage modal, les modes de circulation, mais que c'est une question de partage de la rue entre ceux qui y passent et ceux qui habitent sur la rue, ce qu'on appelle les riverains, que je propose d'appeler le partage, alors le partage de l'espace de la rue, j'ai proposé de l'appeler partage frontal. J'ai essayé de nommer très précisément l'espace qu'on habite devant chez soi, qu'il soit dans le domaine public, propriété publique, dans notre domaine à nous. Quand vous sortez de chez vous, comment appelons-nous tous l'espace qui est devant chez soi? Mais très bizarrement, il n'y a pas de mots pour le dire. Il y a énormément d'endroits où l'espace qui est devant la maison n'est pas de la même nature. Il y a des plantes, il y a des objets, des jouets, il peut y avoir des trucs qui sont là et qui contribuent à faire de la rue un espace habité et non pas un espace simplement circulé.
Pour remettre les choses en relief et non pas, j'allais dire, en défaut, il y a effectivement le fait de donner un nom pour conceptualiser. Il y a peut-être juridiquement des choses à adapter parce qu'on passe de la propriété privée, qui est un pilier même du droit français, au droit public. Et vous dites aussi qu'il y a le sens du détail. C'est peut-être pas la peine de mettre toute la ville à bas pour retrouver le sens de la rue.
Constat peut-être rassurant pour nous tous, c'est une histoire de détail, donc c'est une histoire de petites choses. De petites choses qu'il faudrait peut-être refaire différemment, mais c'est pas de faire tomber les bâtiments tellement. C'est pas tellement de changer là où on roule, même si on peut réduire des chaussées trop importantes. Cet espace qui est devant la maison, là, qui est devant chaque riverain d'une rue, j'ai proposé de l'appeler un frontage, effectivement, parce que c'est un terme qui est utilisé par les Américains. Alors chez nous aussi, dans les règlements techniques de l'urbanisme, on dit qu'est-ce que a le droit de faire quelqu'un en bord de rue, qu'est-ce qu'il doit faire. Et alors là, si vous regardez la manière dont les urbanistes sont contraints d'écrire en France, vous constaterez qu'ils ont beaucoup de mal. Ils ne savent pas comment dire cet espace intermédiaire devant qui est propriété privée ou publique, etc. Si on le convient de l'appeler frontage, cet espace devant la maison, il y aura le frontage public, celui qui est dans le domaine public et donc qui est géré, entretenu, aménagé a priori par la puissance publique, par les services d'une technique d'une ville, et qui est propriété publique, dans le domaine public. Et puis, il y aura le frontage privé, s'il existe, c'est-à-dire qui est de propriété privée. C'est sur le cadastre, vous voyez, c'est votre parcelle à vous. Mais ça ne veut pas dire que quand vous rentrez chez vous, vous rentrez dans le clos, et dans le bâtiment. Vous rentrez peut-être dans un espace devant qui est un jardin ou une cour ou une terrasse, ou etc. Frontage privé. Cette notion de propriété est fondamentale en France, mais partout. Donc ce n'est pas parce que quelque chose est privé qu'il n'est pas public. Par exemple, dans ce domaine public de nos rues, ce sont les voitures. Les voitures sont considérées comme des lieux privés. Donc on ne peut pas dire que c'est interdit de mettre un lieu privé dans un espace public. Il y a 30 millions de voitures, je ne sais plus combien de voitures en France. Pourquoi est-ce que des riverains privés se donneraient-ils du mal pour faire leur rue? Une des constatations majeures à laquelle je suis arrivé, les rues, c'est notre affaire. Si on ne se dit pas que chacun de nous doit faire un peu la rue, eh bien il n'y aura pas de rue vivante. L'essentiel, c'est de comprendre que si on veut avoir une rue où il y a la vie de la rue, il faut bien que la vie de ceux qui habitent au bord de la rue se manifeste et soit présente et soit dans un échange. On ne peut pas dire « je veux une rue et je ne veux rien lui donner ». Quand on donne sur rue, il faut aussi donner à la rue quelque chose.
Il y a aussi en France la question de la spontanéité, parce que spontanément on ira à la sauvette peut-être déposer ses encombrants au coin de la rue en essayant de ne pas se faire pincer. La spontanéité est parfois synonyme de filouterie, voire à la limite on peut très bien c'est repeindre son vélo de manière à ce que lorsqu'il reste dans la rue il soit de belle couleur. Jusqu'où peut aller cette spontanéité?
Le mot est très, très intéressant. C'est un mot qui veut dire étymologiquement de sa propre volonté. C'est-à-dire que c'est une chose qu'on fait non pas parce qu'on vous l'impose de la faire, mais parce qu'on la fait volontairement. Je pense que c'est plus sympa effectivement qu'on m'impose pas de planter ma fleur, etc. Le premier sens du mot spontané, c'est je le fais volontairement, c'est pas une chose qu'on m'impose. Par contre, c'est un climat qui va me faire que je vais le faire ou pas. C'est spontanément, on fait quelque chose. Ce qui est très essentiel dans les rues, parce que, en fait, dans la rue, ce qui se passe, c'est la vie sociale informelle. La vie sociale pas programmée. On peut programmer d'aller au bureau, d'aller au boulot, d'aller au cinéma, mais on peut pas programmer de croiser comme ça ou d'entre-apercevoir les gens. Tout ça, en fait, la vie de la rue, c'est de multiples petites choses. La compose, c'est pas grand-chose. Aucune d'elles, si vous la repérez, ne semble devoir retenir notre attention. Je me suis demandé comment on pouvait désigner une chose de cette nature. J'ai appelé ça le principe des ruisseaux. Vous savez que les ruisseaux font les grandes rivières, voilà ce que je veux dire. Bah, sur la rue, c'est pareil. C'est énormément de toutes petites choses qui, accumulées, font des vraies bonnes rues vivantes qui sont les piliers de notre habitat.
En Angleterre, on pense tout de suite à la bouteille de lait. Elle est synonyme de démocratie. Que fait-on des enfants qui jouent dans la rue? Quand ils sont petits, c'est bien. Quand ils commencent à taper dans un ballon tard le soir, il faut reconnaître que c'est désagréable.
C'est comme le match de foot. Il faut des arbitres et il faut des règles. Et il faut un terrain. Bien sûr, on peut se dire c'est trop compliqué d'avoir un arbitre, de faire des trucs, de mettre des cartons rouges. Ne jouons pas au foot. C'est trop compliqué d'avoir des enfants qui jouent. Ne laissons pas les enfants jouer. Oui, mais on peut sécuriser dans tous les sens et supprimer tout ce qui pourrait être source d'ennui. C'est très étrange et c'est très significatif, tous ces règlements. Je crois qu'il faut être tranquille, il faut être calme. Il faut voyager, ça permet de se changer les idées. Il faut considérer que si quelque chose choque quelqu'un, il faut que la personne puisse le dire et qu'elle le dise à quelqu'un. Alors, à qui dire ce qui nous choque? Il faut de la médiation. Il faut que dans un quartier ou dans des rues, etc., il y ait capacité de pouvoir résoudre des conflits. Si les conflits, on ne sait pas les résoudre, mais qu'on veut simplement empêcher qu'ils aient lieu, c'est là que les choses commencent à mal tourner.
Nicolas Soulier, vous êtes en train de nous parler du charme, de la vie. On connaît bien certains quartiers de certaines villes. Déréglementer un petit peu, ça veut dire oser à nouveau vivre dans les lieux publics.
Il faut oser vivre dans des lieux privés, dans l'espace public. C'est ça le sujet de mon livre. C'est pas la vie dans les rues du centre-ville. C'est la part de notre vie chez nous. Il y a une part qui est, on adore ne pas montrer aux autres. On va pas montrer nos chambres à coucher, notre vie intime. On adore avoir notre jardin secret, notre terrasse privée, être visible de nulle part. On adore ne rien entendre là, mais peut-être qu'on a aussi besoin et qu'on aimerait beaucoup et qu'on aime en fait aussi avoir une part publique, c'est-à-dire par public, je veux dire, qui est ouvert au regard public. Quand vous allez à une terrasse de café, vous aimez être là. Mais c'est pareil aussi dans la vie quotidienne, sur rue. Surtout, c'est pas une question de déréglementer dont je parle. C'est pas qu'il y a trop de règlements et qu'il faudrait déréglementer. C'est qu'il faut qu'il y en ait de différents. C'est en fait, les effets très, très pervers de disparition de la vie de la rue peuvent être associés à une absence de règlement. Prends un exemple à Londres. Les villes anglaises, on pense tout de suite à une rue bordée de jardins devant, comme on dit, de frontage jardin, je dirais. En ce moment, ils sont en train de disparaître parce qu'il n'y a pas de règlement qui empêche leur disparition. C'est pas qu'il faut pas réglementer. Si on pense que le jardin de devant dans une rue que cultive un privé sur la rue, mais il le cultive dans la rue. Il va recevoir en échange le fait que la rue, il aime bien y habiter. Si on ne réglemente pas, ça peut fiche le camp. Je crois qu'il y a 5200 terrains de football qui ont disparu de la commune de Londres. Il y a 22 fois la surface de Hyde Park qui a disparu dans les dernières années. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, ils veulent garer leur voiture devant chez eux et ils n'ont pas d'autre solution. En peu de temps, une situation se crée dans ce pays qui n'avait pas pensé que ça arriverait. Donc, ils vont devoir réglementer. Donc voilà, il faut du courage politique. Alors je crois qu'en France, il nous faut un courage collectif pour trouver des solutions locales dans des cadres généraux et il faut se donner un petit peu de mal.
Nicolas Soulier, en tous les cas, on retient le terme de frontage. C'est pas seulement un mot, il y a une belle réalité devant plutôt que derrière d'ailleurs. Et surtout votre livre Reconquérir les rues, exemple au pluriel à travers le monde et piste d'action. Et c'est aux éditions?
C'est aux éditions Ulmer, c'est-à-dire c'est un éditeur qui est consacré surtout aux plantes, aux animaux, etc., mais qui aussi au style de vie, je dirais, à l'art de vivre. Et son éditeur, Antoine Isambert, j'ai eu une fois une discussion avec lui sur pourquoi en France, effectivement, nos rues ne sont pas très agréables. Et en ayant discuté avec lui, il m'a dit « mais il faut en faire un livre ».